Bonjour à toutes et à tous, Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez. C'est tous les 15 jours une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Oui, c'est super.
Bon, Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Toujours.
Alors, cette semaine, pour cette nouvelle émission de Mémoire Aveyronnaise, Vincent, où est-ce que tu vas nous emmener ou peut-être de qui tu vas nous parler?
Ah, grande question, éternelle question. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un Tarné.
Un Tarné ?
Et un Tarné.
Il n'y a pas de souci, Vincent. Mais Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, un Tarné.
Tarné ? Aveyronnais ?
En fait,
je vais vous parler du plus Aveyronnais des Tarnés.
Ah bon ?
T'as pas d'idée ?
Le plus Aveyronnais, non, aucune idée.
Le plus Aveyronnais des Tarnais.
Non, Jean Jaurès, mais je dis n'importe quoi.
Ah oui, non, n'importe qui reste dans le Tarn.
Je sais pas.
Alors en fait, je vais vous parler du très célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec et du château du Bosc, dans lequel il a passé une grande partie de son enfance et où il reviendra régulièrement dans sa courte vie d'adulte.
D'accord, ouais, parce que alors là, je ne suis pas super fort dans ces domaines, dans aucun d'ailleurs. Mais Toulouse-Lautrec, oui, on en parle à Albi, donc c'est un Tarnais, on est d'accord.
Et on en parle à Albi.
Ouais.
Mais
Château
du Bosc, on en parle très peu. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai souhaité cette chronique.
Oui.
Alors qu'il a peut-être passé plus de temps en Aveyron que dans le Tarn. Il est né dans le Tarn, mais il a passé énormément de temps dans l'Aveyron, à ce fameux château du Bosc, qui est magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler.
Super.
Donc c'est pour ça que je dis le plus Aveyronnais des Tarnais.
Ouais. Et un château du Bosc que tu es allé visiter comme parfois à l'occasion de Mémoire Aveyronnaise sur CFM ou pas?
Oui, ah, oui, alors j'en parlerai à la fin. Alors non, c'est un château que je connaissais déjà.
D'accord.
Mais comme très souvent quand je prépare Mémoire Aveyronnaise, je contacte les gens et puis j'essaye d'avoir un rendez-vous pour m'imprégner des lieux et puis bon, poser plein de questions et puis être sûr aussi parce que tu sais, on lit un peu de tout des fois.
Ah, oui.
Donc voilà, vraiment
avoir
le ressenti et l'impression des gens qui sont vraiment sur place et qui connaissent le mieux les lieux, c'est quand même... voilà. Et puis je tiens toujours, je les remercierai à la fin, mais je tiens toujours à remercier ces gens-là parce que vraiment j'ai une chance extraordinaire qu'on m'ouvre les portes et puis en plus bon, vraiment on me déroule le tapis rouge à chaque fois. Non, c'est chouette, vraiment. Ouais. Moi qui suis passionné par ces beaux lieux, par l'histoire et ces grands personnages, pour moi c'est vraiment formidable.
Bon, alors l'Aveyron est vaste, hein, du coup je le connais pas à fond, hein, loin de là. Et c'est vrai que le château du Bosc, je t'avoue, Vincent, bon, je sais qu'il est pas à Rodez, quoi, mais sinon je vois pas où c'est.
C'est très près, c'est à 30, même pas à 30 minutes de Rodez.
Ah ouais, d'accord. C'est même pas aux frontières du Tarn.
Ah si, si. Je vous dirais, c'est quasiment pile entre Rodez et Albi.
D'accord.
Mais bon, avec la nationale, maintenant, c'est la deux fois de voie, ça va vraiment très vite. Ouais. Le château du Bosc, en fait, se situe sur la commune de Camjac, près de Nocelles, donc entre Rodez et Albi.
D'accord.
Il s'agit d'une très ancienne forteresse médiévale reconvertie en résidence nobiliaire. Et il est fait mention en fait du château du Bosc dès la fin du XIIe siècle.
Donc
c'est vraiment très ancien.
Oui.
Cette forteresse avait pour but de protéger la vallée du Vior toute proche. C'est
d'accord.
Vraiment tout proche.
Mm-hmm.
En fait, nous sommes à 11 km du célèbre viaduc du Vior, qui a été construit en 1902 par l'architecte Paul Baudin.
Mm-hmm.
Donc tu vois, c'est vraiment aux marches de notre Bourg-Rouergue.
Mm-hmm.
Cette forteresse comptait 4 tours rondes à chaque angle, ainsi qu'un grand donjon carré.
D'accord, ouais, vraiment à l'ancienne, quoi.
Vraiment à l'ancienne.
Le classique du château.
Tout à fait. Elle a été en partie incendiée, devine par qui ?
Ben, les Anglais.
Nos amis les Anglais. Durant la guerre de Cent Ans.
Ouais.
Et reconstruit au 15e siècle en l'amputant de 2 tours.
Ah.
Voilà, quand on voit le château à l'heure actuelle, c'est un vraiment très joli château. Il reste que 2 tours.
Il reste quand même 2 tours.
Il reste quand même 2 tours.
Ouais.
Et tu me diras, et le donjon ?
Et le donjon, c'est vrai, le donjon.
Le donjon carré, lui, il a été abattu au XVIIIe siècle.
Ah,
voilà, pour moderniser un peu plus, là, sûrement, la bâtisse.
D'accord, ouais.
Le château est resté dans la famille Humbert du Bosc depuis ses origines jusqu'au milieu du XIXe siècle.
Donc.
Où, faute de descendants mâles, il est transmis par alliance au Toulouse-Lautrec.
Ah, voilà, on y arrive.
On y arrive.
D'accord.
Ce vieux château est transformé en une très belle maison familiale par la comtesse Gabrielle de Toulouse-Lautrec, grand-mère paternelle du peintre.
Ah bah tu vois, je savais pas qu'il y avait des ascendances nobles de Toulouse-Lautrec.
Ah bah c'est de Toulouse-Lautrec.
Ah bah
on dit toujours Toulouse-Lautrec,
mais
tu sais qu'en langue française, quand on dit le nom, on ne prononce pas le « de ».
Ah bah tu vois, je savais pas.
C'est Henri II Toulouse-Lautrec ou Toulouse-Lautrec.
Ah bah.
Si tu dis, c'est une faute de français, mais bon, c'est, voilà,
de
ça,
dire
faut,
de
faut savoir, de dire de Toulouse-Lautrec, c'est une faute.
D'accord.
C'est soit Henri de Toulouse-Lautrec, soit Toulouse-Lautrec.
Ok, merci. Bah, tu vois, j'ai encore appris quelque chose grâce à toi.
Ce château est vraiment très agréable. Il est richement décoré de meubles, tapisseries, portraits de famille, de très nombreux objets aussi. Il est aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mmh. Et nous allons voir à présent, plus précisément, la vie de Henri, Marie, Raymond de Toulouse-Lautrec.
Ah ouais, parce que moi je savais pas qu'il avait vécu en Aveyron. Toulouse-Lautrec, on le voit chez lui, pourquoi pas dans le Tarn, puis à Paris, parce qu'il a fait plein de trucs à Paris.
J'ai jamais fait attention sur la nationale, il y a un grand panneau avec le château du Bosc qui est dessiné avec Toulouse-Lautrec.
Non, j'avoue que.
moi je suis sur mon volant,
sérieux,
je conduis,
sérieux,
je
regarde
la route,
c'est bien. Ouais. Alors lui, il est né à Albi, ouais, personne n'est parfait. Hein. Mm-hmm. Le 24 novembre 1864, mm-hmm. il est le fils d'Henri-Alphonse Charles de Toulouse-Lautrec Monfa. Et d'Adèle Zoé Tapier de Céléran.
Ah, ben ça, c'est un sacré nom.
Oui. En fait, ils sont cousins germains.
Ah, ben oui, mais ça arrivait souvent.
Autrefois,
dans
ouais,
les familles nobles.
Dans les grandes familles et dans la noblesse, ouais, oui. Il était très courant de se marier entre cousins afin de préserver et de réunir le patrimoine et les patrimoines et les fortunes.
Oui.
Et voilà. Mais c'est pas, d'un côté, c'est pas idiot.
Oui, c'est pas idiot.
Sauf que, on le verra malheureusement pour ce pauvre Henri de Toulouse-Lautrec, au niveau consanguinité.
Ah, il y a des tares.
C'est pas terrible.
Bah oui.
Voilà, c'est un peu ce qui va lui arriver, c'est les problèmes qu'on va voir. 4 ans après sa naissance, un petit frère va naître, Richard Constantin. Malheureusement, alors est-ce que c'est aussi dû à la consanguinité ou autre chose, on ne sait pas. Il est mort à l'âge de 1 an. Voilà, donc Henri de Toulouse-Lautrec sera tout seul. Henri grandit entre l'hôtel particulier de ses parents à Albi, le château du Bosc, demeure de ses grands-parents paternels, et le château de Céléran, près de Narbonne, qui appartenait à la famille de sa mère.
Une enfance protégée,
beaucoup de propriétés. Ouais. Également, il sera beaucoup à Paris. Il connaîtra déjà Paris enfant parce que ses parents, je crois, avaient un bel appartement à Paris. Mm-hmm. Mais bon, apparemment, je crois que si on faisait le calcul, je suis Aveyronnais, je tire la couverture de mon côté. Mais je crois que voilà.
Il a passé plus de temps en Aveyron ?
Peut-être, d'accord, c'est possible. D'accord. Il faudrait faire le calcul, mais c'est possible.
D'accord.
Or, dans le Tarn, on te dira que non.
Oui, bien sûr.
Il est un enfant très beau et très agréable.
Ah bon ?
Oui. Alors, la comtesse von Atten, née Marie Tapier de Céléran, qui est la cousine d'Henri, a écrit un livre. Alors, c'est sa cousine, mais elle écrit un livre qui s'intitule « Notre oncle Lautrec ».
D'accord, ouais.
Donc, c'est particulier. Ouais. Je la cite. « C'est un robuste bébé au teint très chaud, avec des yeux câlins, couleur de châtaigne, qui abonde sur ce rude plateau du Ségalard. »
Ah.
C'est beau, hein ?
Ouais, très bien.
Et oui, on est en plein Ségalard. Mm-hmm. Il aime beaucoup s'amuser avec ses très nombreux cousins et très nombreuses cousines dans le parc ainsi que dans le petit bois qui jouxte le château. Chose assez amusante, surtout pour l'époque, hein, je t'ai dit qu'ils allaient souvent à Paris, les allées de ce petit bois étaient sablées. On avait mis du sable sur ces allées pour rappeler les allées du bois de Boulogne où la grande société aimait se promener à l'époque.
Oui,
c'est amusant. Hein.
C'est vrai qu'il y a du sable là-bas.
Un petit peu du bois de Boulogne en Aveyron.
Hein, d'accord.
Son père et son oncle sont des passionnés de chasse. Ils y passent le plus clair de leur temps. Et Henri, quant à lui, à part s'amuser avec ses cousins et ses cousines, passe énormément de temps dans les écuries et dans le chenil.
Ah ouais.
Donc passionné de chasse, beaucoup de chiens, beaucoup de chevaux, beaucoup de dessins d'ailleurs de Toulouse-Lautrec, qui aimait beaucoup représenter les chevaux.
Oui, les chevaux.
Ouais, on le voit beaucoup ça. Mmh. Ce château est resté quasiment en l'état. Il est vraiment très très beau. Alors. Si Versailles est le mausolée de Louis XIV, ouais. Moi je trouve que c'est une phrase qui est très belle, le château du Bosc est le mausolée d'Henri de Toulouse-Lautrec. Mmh. Quand on visite, on a presque la sensation de sentir sa présence, surtout dans la chambre, dans sa chambre, et dans laquelle sont conservés de nombreux souvenirs et jouets. Mmh. Vraiment des choses émouvantes qui lui ont réellement appartenu. Parmi ces jouets, on trouve son landau. Je crois qu'il y a sa robe de baptême aussi. Un petit voilier qui est très beau, qui a été réalisé par Henri avec l'aide de son oncle. Et également un très joli théâtre de marionnettes.
Ah,
voilà, beaucoup de petits objets et d'autres que je ne cite pas pour vous donner l'envie d'aller le visiter. Dans une autre pièce, quelque chose aussi de très émouvant, on découvre la toise qui a servi à mesurer tous les membres de la famille à partir de 1850.
D'accord, ah ouais.
Bah ouais, très impressionnant, surtout qu'elle est énorme. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont été toisées.
Ouais.
Toisées dans le bon sens du terme.
Ouais, mesurées.
On peut élire cette inscription « Henri de Toulouse-Lautrec, juillet 1892, 1m53 ».
Ouais, il n'était pas grand.
Non, et ouais,
il
non,
était
non,
même...
Mais c'est ce qu'on va voir. Tout petit déjà, il dessinait beaucoup lors des veillées familiales, allongé sur un grand tapis devant le feu de cheminée. C'est assez amusant. Lorsque sa nourrice lui retirait ses crayons pour le mettre au lit, il allait ramasser les charbons de bois près du feu pour continuer à dessiner. C'est amusant, ce genre d'anecdote. C'est vraiment le genre d'anecdote que j'aime beaucoup. Tout le monde sait qu'Henri de Toulouse-Lautrec était passionné de dessin, forcément, mais il y a très peu de monde qui connaît sa passion pour la cuisine.
Ah bah oui, non, ça je savais pas.
Et non, moi non plus, j'ai découvert, tu vois, grâce à CFM, moi aussi je découvre des choses.
D'accord.
On pouvait régulièrement le surprendre dans une des tours du château, en train de mijoter de bons petits plats, en compagnie de son ami Maurice Joyant.
D'accord. Est-ce qu'on connaît sa spécialité ?
Oui, je vais te le dire. Ils vont écrire ensemble un livre de recettes.
Ah, dingue, oui, ouais, carrément, ouais.
Intitulé « Les recettes de Monsieur Momo ».
Momo.
Maurice.
Ah, bah, oui, bien sûr, d'accord.
Henri en a illustré les pages de ce livre de cuisine. On peut toujours trouver ce livre en vente. Bon, il y a quelqu'un qui a dû se dire que les recettes de Momo pour Toulouse-Lautrec, c'était pas terrible. Hein. Maintenant, le nom a changé. Oui. Il s'appelle l'art de la cuisine.
L'art de la cuisine.
L'art de la cuisine, voilà.
D'accord. Oui, ça fait plus sérieux, mais enfin bon, c'est pas non plus extraordinaire. L'art de la cuisine pour les deux cuisines.
Oui, mais bon, il n'y a pas Momo.
Ouais,
c'est quand même, ils ont voulu, je pense, mettre plus Toulouse-Lautrec à l'honneur. L'art.
Ouais.
L'art Toulouse-Lautrec. Voilà.
Oui,
et oui, c'est ça, l'art de la cuisine. Ouais,
plutôt que Momo.
Il y a l'art dans le sens culinaire et dans le sens artistique.
Sûr. D'accord.
Alors, tu me demandais sa spécialité.
Oui, oui.
C'est assez amusant. Je ne sais pas où il l'est trouvé. Est-ce que sur l'Aubrac, à l'époque, il y en avait, je ne sais pas. Sa spécialité était le civet de marmotte.
Ah oh, le civet de marmotte.
Oui, ça doit pas être mauvais, je pense.
Oui. Mais moi, je vois la petite bête mignonne là, qui fait là, des
conneries. Il y a plein de bêtes mignonnes. Tiens, petit veau, c'est mignon.
Oui. Civet de marmotte. Bah écoute, pourquoi pas. Bon, je crois qu'actuellement, ça serait interdit, hein.
On
arrête avec les marmottes.
Hein. On arrête avec les marmottes.
Ouais, ok.
Sa santé se fragilise à l'âge de 10 ans. Il souffre, alors je vais essayer de le dire sans écorcher, de pycnodysostose, à tes souhaits, qui est due à sa consanguinité, bien sûr. Hein. Il s'agit d'une maladie osseuse qui se traduit par un retard de croissance. Et oui, si se marier entre cousins et cousines, c'est pas très conseillé, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison.
Il y a des bonnes raisons.
Voilà. Le 30 mai 1878, le petit Henri tombe d'une chaise basse sur le parquet du salon du château du Bosc et il se fracture le fémur gauche.
D'accord.
Les annuits commencent là.
Ouais, c'est une bonne chute pour se fracturer le fémur.
Non, il y a les os fragiles, c'est une chaise basse. C'est vraiment. Autrefois, il y avait des chaises qui étaient relativement basses.
D'accord.
Vraiment pas à la hauteur de maintenant, vraiment, tu sais, presque à la hauteur d'un petit marchepied, quoi.
Ok.
Donc, c'est pas très haut, mais le pauvre, ça lui a suffi.
D'accord.
L'année suivante, en juillet 1879, il glisse dans une ravine de pierres sèches alors qu'il était en cure avec sa mère aux eaux de Barège dans les Pyrénées. Cette fois, il se fracture le fémur droit. Mais vraiment pas de chance. Ces deux chutes le rendent infirme à 14 ans.
Ouais.
Il est obligé de garder le lit pendant une très longue période et va occuper tout son temps à dessiner et à peindre des aquarelles. On essaye, alors accroche-toi bien, c'est la période de la fin du 19e siècle où on tente beaucoup d'expériences médicales, on essaye de le guérir au moyen de décharges électriques.
Ah bah oui, on devait découvrir l'électricité.
Ouais, c'était la grande mode.
Donc on essayait ça surtout.
C'est ça. Et en lui plaçant à chaque pied une grande quantité de plomb pour essayer d'étirer ses jambes.
Oh putain, pardon.
Ouais. Son buste continue à grandir, mais ses jambes restent à leur taille d'enfant. Comme on l'a vu sur sa toise, il ne dépassera jamais le 1m52.
Donc c'est vraiment pas en plus grand, pour l'époque.
Et oui, en plus à l'époque on avait de grands manteaux qui valent vraiment. Ces manteaux vont lui donner une allure un peu particulière parce que
il n'a jamais trouvé sa taille.
Ben non, ça accentue encore son handicap.
Uh-huh.
Il fait ses études à Paris au lycée Fontane. Tu sais comment il s'appelle le lycée Fontane ?
Non.
Condorcet.
Ah bah maintenant. Oui, lycée Condorcet, bien sûr.
Voilà. Il n'est pas un très bon élève. Ah. En 1881, il échoue au baccalauréat et quitte la capitale pour rejoindre Toulouse où il est enfin reçu. Lors de la session de rattrapage, il tente son coup en province. C'est alors qu'il décide de devenir artiste et qu'il rentre dans un atelier parisien. Alors, bon, moi, je préfère parler de sa vie à Véronèse, dans notre beau Rouergue. Hein, et je vais faire un peu l'impasse sur la partie de sa vie qui est vraiment connue, sur la partie artistique, sur
les bars à
le Moulin
Paris,
Rouge,
les cafés,
etc. etc. Tout le monde connaît. Voilà. Moi, je préfère vraiment mettre l'accent sur cette partie qu'on connaît beaucoup moins. D'ailleurs, mais c'est vraiment étrange parce que, tu sais, comme dit l'adage, nul n'est prophète en son pays.
Oui.
Mais Henri de Toulouse-Lautrec est extrêmement connu dans le Tarn. On vient du monde entier pour le voir et pour voir ses œuvres au musée d'Albi. Mais en fait, son château d'enfance en Aveyron est vraiment beaucoup moins connu. Mmh. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, je me suis régalé. C'est vraiment un très beau monument. Et en plus, je te dis, on a vraiment la sensation de croiser au détour de. Mmh. D'une pièce, de rentrer tu vois, dans une salle et de le voir assis à table. Franchement, c'est vraiment impressionnant. À croire qu'en Aveyron, tu vois, c'est dommage, mais on n'en a que pour le noir soulage. Hein.
Ah ben, ouais, c'est vrai, il est largement devant
ouais.
Quand on parle de peintre
et ouais.
En Aveyron, ça
ouais.
C'est sûr.
Mais un peu de couleur, ça fait du bien. Alors, il est d'autant plus aveyronnais, Henri de Toulouse-Lautrec, que... bon, il devait, comme tout le monde, passer son service militaire, sauf que physiquement, bien entendu, il est un peu handicapé, donc il ne peut pas. Mmh. Il va passer devant le conseil de révision, puisque même si tu ne peux pas, il faut passer devant le conseil de révision pour dire si tu es apte ou pas. Il va passer devant le conseil de révision, pas dans le Tarn, mais en Aveyron.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Donc voilà, d'autant plus aveyronnais, tu vois.
Donc réformé en Aveyron.
Réformé en Aveyron. Oui, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est bien ou pas.
Ouais, bah, écoute, lui, à mon avis, c'est pas plein.
Non, non, oui, ça c'est sûr.
Et l'armée française non plus, au
non,
final.
Non plus. Je vous ai dit que le château du Bosc était son château d'enfance.
Oui.
Mais de Paris, il revient chaque été pour se ressourcer auprès de sa famille, hein, en tant qu'adulte. Il ne quitte jamais, en fait, le château du Bosc. Hein. Désolé pour les Tarnais, mais
ouais.
Même à Paris, quand il revient en famille, il revient au château du... Il revient en Aveyron.
La maison de famille.
Voilà, il revient pas dans le Tarn.
Ouais.
Il revient en Aveyron et en Gironde aussi, puisque sa mère a fait l'acquisition d'un château au sud de Bordeaux, dont je parlerai tout à l'heure.
D'accord.
La visite du château se termine par l'ancien salon d'été, qui servait aussi d'orangerie l'hiver. Mmh. Cette pièce est superbe. Elle abrite actuellement l'accueil, la boutique et un charmant petit salon de thé. Elle est vraiment incroyable car dans l'embrasure des portes-fenêtres, on peut admirer de superbes dessins esquissés par Henri en 1895. Des très beaux dessins, des caricatures aussi. On y trouve des scènes de chasse, des scènes de cirque. Et puis plusieurs caricatures, dont celle du poète Verlaine.
Ah oui.
Et de sa fameuse nourrice Adeline, dont on a parlé pour les crayons, mmh. Et dont on reparlera tout à fait à la fin. La fin de sa vie est assez triste. Il est alcoolique, atteint, on le sait, par la syphilis.
Eh oui, bah
il
oui.
Fréquentait un peu trop les dames parisiennes,
ouais.
Si tu vois ce que je veux dire.
Comme beaucoup de monde à l'époque.
Et oui, voilà, oui, comme, beaucoup, oui, comme beaucoup à l'époque. Mmh. Il est fait beaucoup de la haute société.
Oui, oui, bien sûr.
En mars 1899, il est interné à la maison de santé de Neuilly, à la demande de sa mère, pour soigner à la fois son alcoolisme et sa syphilis.
Oui.
En mars 1901, un accident vasculaire cérébral le laisse paralysé des jambes et l'oblige à vivre en chaise roulante.
Mmh.
Le 15 août 1901, il est victime d'une hémorragie cérébrale qui le rend hémiplégique. Alors hémiplégique, hein, c'est la paralysée d'une moitié du corps. C'est paraplégique.
Mmh.
Il rejoint sa mère dans son château de Malromé en Gironde, donc c'est le fameux château dont je viens de parler, où il meurt le 9 septembre 1901, à presque 37 ans.
Oui, il n'était pas vieux.
Pas
hein.
Tout à fait 37
pas vieux
ans.
Du
non,
tout,
non, vraiment
du
pas
tout,
vieux.
Du tout. Ouais.
Ses derniers mots sont pour son père qui était présent et qui était, je le rappelle, un grand passionné de chasse. Je savais, papa, que vous ne manqueriez pas l'alali.
Ah,
c'est beau, c'est émouvant. Hein
oui, l'alali.
En tant que chasseur, et l'alali, tu sais, c'est la fin de la chasse
oui.
Où on va porter le coup de grâce au cerf. Il est enterré au cimetière du petit village de Verdelay, en un seul mot, c'est pas Verdelay, c'est Verdelay, à quelques kilomètres du château de Malromé. Sa tombe est assez simple, elle est surmontée d'une croix occitane, il repose aux côtés de sa mère et aux côtés de sa nourrice.
Ah oui, dis donc.
C'est un souhait de Toulouse-Lautrec. Il a vraiment voulu être enterré auprès de sa nourrice, qui apparemment comptait beaucoup sur lui. Il n'y a pas son père.
Oui.
Puisque, en fait, sa mère et son père, c'est assez, assez particulier, étaient plus ou moins séparés, se retrouvaient plus ou moins.
Ah ouais, comme
c'est,
ça se
comme
aussi,
ça se faisait beaucoup à l'époque.
À l'époque. Chacun sa maison.
On divorçait
mariés,
pas, ouais. Mais chacun sa maison, on se revoit de temps en temps.
Ouais.
C'est vrai que ça se faisait aussi beaucoup dans la haute société. Alors moi, je connais bien Verdelais, car j'ai connu, et puis aussi Malromé, j'ai eu l'occasion de visiter le château de Malromé et puis Verdelais. J'ai vécu une quinzaine d'années sur Bordeaux. Mmh. Et c'est vraiment un très très joli petit village dans lequel se trouve une très belle basilique baroque qui était autrefois un des grands lieux de pèlerinage marial du sud-ouest.
Ah d'accord.
Il y a une très belle Vierge Noire qui doit dater, je crois, du 11e ou 12e siècle. Mmh. C'est vraiment un très très beau lieu. Avant de nous quitter, je voudrais remercier deux personnes. Je tiens à remercier le propriétaire actuel du château, du Bosc, monsieur Puzzola, pour m'avoir ouvert les portes de son superbe château et puis il m'a permis aussi d'avoir une très belle visite privilégiée pour préparer cette chronique. Je voudrais également remercier Corinne, une des guides du château, depuis vraiment de très très nombreuses années, et qui nous a fait, à mon épouse et à moi, et je la mets toujours dans les bons coups, ouais. quand je visite, j'essaye, elle aime beaucoup aussi tout ce qui est patrimoine et culturel, je la salue parce que elle nous écoute, donc voilà, c'est vraiment sympathique, puis elle me soutient dans tout ce que je fais, donc c'est normal aussi qu'elle vienne avec moi. Et puis c'est vraiment des lieux magnifiques où on est vraiment bien accueillis. Donc elle nous a fait vraiment une extraordinaire visite. Elle est vraiment passionnée et passionnante. Donc merci à ces deux personnes de m'avoir permis de voir tout ça, de répondre à mes questions et puis d'avoir permis que Chronique Historique aujourd'hui fasse la lumière sur la vie aveyronnaise de Toulouse-Lautrec.
Eh ouais, merci beaucoup à toi, Vincent, pour cette nouvelle émission. Donc Toulouse-Lautrec, l'Aveyronnais, et le château du Bosc en Aveyron.
C'est ça.
Cette semaine sur CFM Rodez. On se retrouve dans 15 jours. T'as une idée de l'endroit où tu vas nous emmener, de la période ou de la personnalité que tu vas nous faire découvrir?
Alors, le lieu, l'Aveyron?
Ouais. D'accord, ça me va.
La personne, Victor.
Ah, pas Hugo.
Non.
Ok.
Et non, hélas, j'aurais bien voulu qu'il vienne en Aveyron. Ouais. Mais... Et la période de la fin du 18e siècle au début du 19e siècle. Une période assez courte.
Ah, alors là, il va falloir Victor. Que je réfléchisse. Victor. Ça me fait penser à une série avec Claude Brasseur qui était un policier, mais c'est pas
non,
du tout
c'est
ça.
Non, c'est pas ça. Nous allons parler du célèbre enfant sauvage de l'Aveyron.
Ah, super, ouais, d'accord, ok. Oui, ah, il s'appelait Victor.
Enfin, ça, on l'a appelé Victor.
Ah, mais j'ai dû voir ça quelque part. Mais super, bah, très bien, tu vas me rafraîchir la mémoire et m'apprendre plein de choses une nouvelle fois.
Oui.
Merci beaucoup, Vincent.
Merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.